Bonjour et bonjour Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en rappelant à ceux qui nous sont fidèles et en apprenant à ceux qui nous rejoignent ce jour, bienvenue Will Common et tout ce genre de choses, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale probable ou un peu moins probable, pertinente ou un peu moins pertinente, les petites images qui bouge depuis maintenant un peu plus d'un siècle, 1895 et des poussières. Bref, une vaste contrée dans laquelle pêcher des musiques de films. Eh bien, ça tombe bien puisque ce jour, le thème de l'émission de 24 notes secondes, eh bien, ce sera la pêche. Mais pourquoi la pêche, me diriez-vous, chers auditeurs? Eh bien, juste évoquer quelques films qui ont pour héros principaux soit des pêcheurs, soit des poissons, soit des mammifères, mais marins, les mammifères. Et nous allons commencer cette émission en évoquant un film tourné par Richard Thorpe quelque part dans les années 50, en 1953. En anglais, ça s'appelait All the Brothers Were Valiant. In French, ça s'appelait La Perle Noire, peut-être un peu moins glamour. Et on y retrouvait, en parlant de glamour, deux grandes stars viriles de cette époque, en l'espèce Robert Taylor et Stewart Granger, qui furent l'un comme l'autre les héros de main films d'aventure des années 50, à une époque cruciale pour Hollywood où il s'agissait de concurrencer cette petite lucarne maléfique qui continue à trôner dans nos salons, dans nos cuisines, parfois un peu partout dans la maison. Bref, la télévision, vous l'aviez compris, la télévision qui, dans les années 50 déjà aux États-Unis, commençait à gratter quelque part de marché, comme on disait, je suppose, pas encore, quelque part de marché au cinéma jusque-là tout puissant pour ce qui était de pourvoir en rêves animés. Bref, Robert Taylor, dont on se souviendra, par exemple, dans Les Chevaliers de la Table ronde, où Stewart Granger, inoubliable dans Les Contrebandiers de Moonfleet, eh bien, furent les héros de main films de cette époque. Et si j'ai évoqué Les Chevaliers de la Table Ronde et Les Contrebandiers de Moonfleet, eh bien, ce n'est pas un hasard, cher éditeur. C'est tout simplement parce que le compositeur de la musique de ces films, en l'espèce Miklos Rossa, l'était aussi de la musique de All the Brothers Were Valiant, un film qui racontait l'histoire de deux frères aux personnalités contrastées. Robert Taylor, Stewart Granger, vous l'auriez compris, qu'est-ce qui manque à une fille? Évidemment, il y avait une fille entre les deux, Anne Bliss. Il y avait aussi de la pêche, puisque c'est le thème de ce jour. Il y avait, eh bien, des perles, vous l'avez compris aussi. Il y avait aussi des mammifères marins. Bref, il y avait de quoi faire un bon film d'aventure sans grande originalité. Il faut bien le dire, signé par un vieux routier du genre, Richard Thorpe, qu'on a connu parfois un peu plus inspiré. Par exemple, dans L'Aventurier de Rio Grande avec Robert Mitchum, qui est un des plus grands westerns de tous les temps. Je vous le rappelle, au cas où vous ne l'auriez pas encore vu, ça existe en DVD. Bref, nous étions dans de la production courante, mais avec Miklos Rossa, courant n'est pas un mot qu'on peut employer. Et vous allez maintenant pouvoir, et sans plus attendre, en juger, en écoutant un petit extrait, un large extrait même, de la partition de ce film, All the Brothers Were Valiant, in 24 notes secondes. Thank you. Voilà, le style bien caractéristique de Miklos Rossa pour un large extrait de la bande originale de All the Brothers Were Valiant, La Perle Noire, en français. Un film de Richard Thorpe, bien dans le mainstream hollywoodien, pour illustrer bien notre thème de ce jour, tout simplement, à la pêche. À la pêche, eh bien, nous allons y retourner, si je puis dire, avec un film tourné cette fois en 1958 par John Churches, inspiré d'un court récit signé par Hemingway et paru quelque part Ernst Hemingway, ai-je besoin de le préciser, publié quelque part en 1952, septembre 1952, Pêche, Hemingway, les plus lettrés d'entre vous auront certainement reconnu, eh bien, l'argument du vieil homme et la mer, The Old Man and the Sea, un court récit d'Hemingway qui racontait la lutte entre un pêcheur, un pauvre pêcheur cubain, pauvre et pêcheur, c'est souvent ensemble, un pauvre pêcheur cubain, alias Santiago, sa lutte pour capturer un espadon quasiment géant, évidemment. Tout à la fois, il réussit, et tout à la fois, j'ai honte un peu de dévoiler le suspens, en tout cas, qui en est un dans le film, et tout à la fois, les requins mangent son espadon avant même qu'il retourne au port. Bien évidemment, il fallait aller au-delà du récit, proprement dit, pour y voir une dimension métaphysique que je laisserai à votre réflexion. Juste quelques mots sur la genèse d'un film un peu tortueuse, cette genèse, puisque c'est dès 1953, donc très peu de temps après la parution de cette nouvelle, qu'on décide de la porter à l'écran. C'est aussi dès 1953 que Spencer Tracy joue le rôle du pauvre pêcheur cubain. Et oui, je sais, Spencer Tracy joue le rôle du pauvre pêcheur cubain. Mais il faut attendre 1955-1956 pour qu'un premier réalisateur, Fred Zinnemann, bien connu peut-être pour avoir réalisé Tant qu'il y aura des hommes, mais si, souvenez-vous, Burt Lancaster et son maillot de bain, comment dire, un peu moulant, et Deborah Kerr sur une plage avec les vagues, etc., etc. Bref, Fred Zinnemann commence le tournage, mais est remercié aux dépens de John Sturges, ou plutôt au profit de John Sturges, qui lui a bien du mal avec les espadons. Hemingway promet de lui en ramener un, et j'ai besoin de préciser qu'Hemingway était écrivain, mais aussi pêcheur, chasseur, pêcheur à tous les sens du terme d'ailleurs. Bref, il ne ramène pas d'espadon, se contente d'un espadon en plastique tourné dans un bassin du studio de Burbank en Californie. Autant dire que tout cela était bien mal parti. De fait, le film coûta très cher et fut un très gros échec commercial. Alors pourquoi en parler, me direz-vous, chers auditeurs? Eh bien tout simplement, puisque le seul Oscar que le film obtint cette année-là, c'est celui de la meilleure musique de film, signée par Dimitri Tiomkin, lui encore un vieux routier du cinéma hollywoodien, comme Miklos Rossa, tout comme Miklos Rossa, d'ailleurs venu de quelque part des pays de l'Est, si je me souviens bien, pour Tiomkin de Russie et pour Rossa de Hongrie. Alors par contre, peu de rapports entre leurs styles musicaux. J'ai été assez bavard, vous allez pouvoir en juger par vous-même dès maintenant en écoutant un petit extrait de la bande originale du Vieil Homme et la Mer, The Old Man and the Sea, sur Divergence FM. un extrait, en fait, le générique de début, bien apaisé, de la bande originale du film de John Sturges, avec Spencer Tracy dans le rôle principal, et un espadon quand même dans le second rôle principal. Un film donc de John Sturges tourné en 1957-58, Le vieil homme et la mer, The Old Man and the Sea, pour illustrer notre thème de ce jour, en l'espèce, les rapports parfois conflictuels entre les hommes et les poissons et les mammifères marins, et de rapports parfois conflictuel, eh bien, il est plus que question dans notre film suivant. Il était bien difficile de l'éviter avec un thème comme celui-là. En 1975, en effet, le jeune, à l'époque très jeune, Steven Spielberg terrifia les foules, remplit les salles de cinéma et vida les plages, il faut bien le reconnaître, en tout cas les plages de Californie, en adaptant de main de maître un roman paru, je crois, un ou deux ans avant et signé de Peter Benchley. Vous avez sans doute déjà reconnu Les dents de la mer, Jaws, mâchoire, ça veut dire. In English, certainement l'un des tout premiers grands films, ça c'est plus que certainement, l'un des tout premiers grands films de Steven Spielberg, un succès absolument considérable, une histoire absolument triomphante peut-être, mais surtout terrifiante, où l'on voyait un grand, je vais y arriver, mais les requins me troublent, un grand requin blanc, c'est parfois difficile à dire, qui semait la terreur, j'allais dire sur les plages, en tout cas sur les bords des plages de la petite ville d'Amity. Ensuite, eh bien, le thème fut beaucoup repris. On le vit avec des piranhas, on le vit avec des pieuvres, avec tout ce qui peut courir dans l'eau. On vit aussi 2-3 suites à ce film. On vit même, en tout cas certains, un remake calamiteux en 3D. Il n'y a pas si longtemps qu'on préfère oublier. Bref. Rien ne vaut l'original. Alors qu'en dire, sinon que le film réunissait dans les rôles principaux Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, une actrice fétiche de Steven Spielberg, et que je ne résiste pas à vous donner une ou deux anecdotes très savoureuses sur les requins qu'on voit dans le film. En fait, on voit très peu de requins, vrai en tout cas. Il y a un seul plan à peu près, ou deux peut-être, où l'on voit un grand requin blanc qui s'attaque à une cage dans laquelle on a enfermé un comédien qui est censé être Richard Dreyfuss et qui avait été choisi plus petit que Richard Dreyfuss, de façon à accentuer encore l'effet de terreur engendré par la scène. Pour le reste, les producteurs du film, les fameux Zanuck et Braun, croyaient un petit peu, naïvement peut-être, qu'on pourrait apprivoiser tout simplement un requin blanc pour le faire jouer dans l'écran. Ma foi, je suppose que les premières tentatives ont dû être suffisamment décevantes pour qu'ensuite, eh bien, on fabrique 2 ou 3 requins en plastique, un entier et 2 en petits morceaux. Bref, les joies du cinéma, le tout d'ailleurs fabriqué par un vétéran du cinéma hollywoodien, puisque Robert Mattey avait déjà fabriqué la pieuvre que tous ceux qui l'ont vu n'ont pas oublié dans 20 000 lieues sous les mers avec Kirk Douglas et James Mason, un chef-d'œuvre absolu de Richard Fleischer. Mesdames et messieurs, mais tourné il y a au moins 20 ans plus tôt. Bref, eh bien, Robert Mattey n'avait pas perdu la main. C'est lui qui fit le requin qui sème la terreur pendant tout le film, jusqu'à disparaître évidemment, mais non sans avoir entraîné dans sa chute, si je puis dire de façon shakespearienne, quelques-uns des principaux interprètes, sauf ceux rescapés, qui furent bien évidemment des Dents de la Mer 2, on l'espère, Roy Scheider, oh zut, je l'ai dit. Et puis surtout, bien sûr, vous en souviendrez, on ne s'en lasse pas et nous sommes dans une émission de musique de film. Eh bien, pour cette partition de celui qui allait devenir son vieux complice, John Williams créa une musique absolument inoubliable et un thème qui ne l'est pas moins. Allez, on se fait un petit plaisir, on en écoute un petit extrait. Les Dents de la Mer, vous pouvez commencer à trembler dans 24 notes, seconde. We'll be right back. The Triumphant Style of John Williams, aisément reconnaissable pour un extrait de la bande originale des Dents de la Mer, Jaws, le premier de nom tourné en 1975 par Steven Spielberg. Alors, on n'écoutait pas de façon vraiment voyante le thème du requin, bien sûr, on l'entendait un petit peu, mais ce n'était certainement pas une des scènes les plus dramatiques d'un film qui en comptait un certain nombre et qui illustre assez largement notre thème de la pêche, encore qu'en l'espèce, on soit plutôt techniquement, en tout cas, dans la chasse aux requins, je ne sais pas trop. En tout cas, je voulais quand même m'apitoyer sur le sort de ces pauvres animaux auxquels le film a fait beaucoup de tort. Je l'écoutais récemment dans un reportage et continue à en faire la preuve. On en parle encore près de 40 ans plus tard. Requins, pourtant, qui pour la plupart, on le sait, sont des animaux pacifiques. Ils s'en prennent aux surfeurs, mais... Non, je ne vais rien dire, sinon il va y avoir des coups de fil à Divergence FM, je ne vais rien dire sur les surfeurs, mais enfin, s'il faut choisir entre les requins et les surfeurs, bref, je choisirai les requins surtout, donc comme vous le savez, sans doute, ont un système respiratoire fait de telle façon qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de bouger, sinon ils meurent. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'arrêter de parler, eh bien les requins, ils ne peuvent pas s'arrêter de nager, sinon ils meurent. Bref, un petit mot doux pour nos chers requins, et nous allons nous acheminer doucement vers la fin de cette émission, en écoutant cette fois un très large extrait de la bande originale d'un film de Wolfgang Petersen tourné en 2000 et qui était consacré, je lisais ma petite fiche, c'est une pure coïncidence, là encore à une pêche à l'espadon qui finit par tourner mal. Une histoire inspirée de faits vrais, comme on dit dans les films américains, avant de mieux les détourner. En l'espèce, La tempête du siècle, The Perfect Storm, c'est le titre original du film. En français, ça s'appelait En pleine tempête. Une tempête qui eut lieu en octobre 1991 et dans laquelle un bateau parti bien imprudemment à la pêche à l'espadon, donc alors que la tempête était déjà annoncée, et bien finit par disparaître. Alors bien évidemment, ça ne suffit pas à faire 2 heures de film, du coup il y avait parfois quelques effets spéciaux, parfois quelques pêches, mais il faut bien le reconnaître, l'ensemble était un petit peu étiré. On retrouvait dans les rôles principaux George Clooney, qui n'était peut-être pas en pêcheur d'espadon dans le meilleur rôle de sa vie. La même remarque vaudra sans doute pour son camarade, Mark Wahlberg. On voyait aussi Diane Lane, Karen Allen et la trop rare Marie-Elisabeth Mastrantonio. Wolfgang Petersen, bien connu pour avoir été le réalisateur du méga succès du cinéma allemand Le Bateau, Das Boot, avait été recruté dans les années 80-90 par les studios hollywoodiens. Il s'illustra normalement avec un 3 de plutôt bonne facture, avec Brad Pitt, avec un Air Force One férocement réactionnaire, avec Harrison Ford dans le rôle du président des États-Unis. Et puis donc, il s'illustra avec ce film de pêche duquel on préfère retenir, mais c'est bien l'objet de 24 notes secondes, sa bande originale. Je vous propose d'en écouter un large extrait. Embarquez-vous avec James Horner, il faut quand même le préciser. James Horner dans The Perfect Storm dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui.
Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.
Ça tourne.
Divergence FM.